On va prendre nos Bibles dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, il y a des noms, quand je les prononce, je suis béni en même temps. Amen. Il y a des noms qui me bénissent, mais qui me bénissent de manière extraordinaire. Parce que ces noms-là, selon les règles juives et selon les règles de la tradition, selon les règles religieuses et selon toutes les règles qu'on puisse trouver, ces noms-là ne devaient pas normalement figurer dans la Bible. Mais Dieu a mis ces noms-là dans la Bible. Et Ruth a une place tellement importante que non seulement on parle d'elle dans la Bible alors qu'elle est une étrangère, elle n'était pas juive, mais en plus de cela, on lui consacre un livre tout entier. Amen. Et ce n'est pas le plus extraordinaire, en fait, dans l'histoire. C'est qu'elle est aussi une des ancêtres de Jésus-Christ. Amen. Parce que, quand vous allez voir à la fin, elle a donné naissance à un garçon qui s'appelle Obed, qui lui était le père d'Isaïe, et Isaïe était le père de David. Et Christ descend donc de la lignée de David. Donc lorsqu'on parle de ceux qui ont permis à Jésus de pouvoir venir sur la terre, amen, on parle également de Ruth. Quand on fait la généalogie de Jésus, vous allez voir que Ruth s'illustre. Et je dis, moi, j'ai pris mon temps pour étudier toutes les femmes qui étaient dans la généalogie de Jésus. Parce que Dieu a sélectionné les meilleurs. Amen. Pour que Christ ait vraiment tous les atouts. Amen. Dieu a sélectionné les meilleurs. Et Ruth fait partie de ces femmes-là. Ruth, donc, comme je l'ai dit plus tôt, a rencontré Naomi, qui est, elle, par contre, juive, lorsque Naomi s'était expatriée. Nous allons lire, donc, Ruth, chapitre 1, verset 1. La Bible dit, « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. » Donc la Bible dit qu'un homme avec sa femme et ses deux fils partit de Bethléem. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Bethléem signifie la maison du pain. Bethléem, la maison du pain. Donc c'est une maison dans laquelle on est supposé trouver de la nourriture. Amen. Et la Bible dit qu'il y a eu une famine à Bethléem. Ça veut dire que là où ils sont supposés avoir du pain, il n'y avait plus à manger. Il n'y avait plus de pain. Il y avait une famine. Et quand, dans un endroit, les choses commencent à devenir difficiles, dans un pays, ou bien dans une ville, ou bien dans un endroit, ou bien même dans une église, c'est possible, les gens commencent à partir. Commencent à partir de leur pays, commencent à partir pour certains de leur église, commencent à partir pour d'autres de leur ville, pour aller dans une autre ville, parce que les choses commencent à devenir difficiles. Et c'est ce qui s'est passé. À Bethléem, il n'y avait plus de pain, il y avait une famine. Et donc ce monsieur a dit, bon, je prends ma femme et mes enfants et on s'en va. Ce qu'il a fait. Il allait où? À Moab. Où habitent les Moabites? Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Donc ça n'a pas été vraiment très profitable pour eux. Parce que Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth. Donc les deux ont pris des femmes étrangères, ce qui n'était pas supposé faire selon la loi de Moïse. Ils ne devaient pas prendre des femmes moabites, mais chacun d'entre eux a trouvé une femme dans le pays là-bas et ils se sont mariés. La Bible dit ensuite que Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Quelle tragédie. Vous imaginez une femme qui part dans un pays étranger avec son mari et ses deux enfants. Et après quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Elle perd son mari et quelques temps plus tard, elle perd ses deux fils. Donc elle n'avait plus rien. Puis elle se leva, elle et ses belles-mères, afin de quitter le pays de Moab. Donc elles ont dit, bon, nous on est des femmes, on est à Moab, ça sert à quoi de rester là? Donc Naomi se lève et elle décide de quitter Moab. Pourquoi? Parce qu'elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Donc on dit, l'Éternel a visité son peuple et lui a donné du pain. Donc Bethléem, la maison du pain, a recommencé à avoir du pain. Donc il fallait maintenant retourner à Bethléem. Amen. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, donc elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. « Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Donc déjà, elle dit, c'est à cause de vous que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Parce que mes enfants vous ont épousé, c'est à cause de cela que j'ai perdu mon mari et j'ai perdu mes enfants. Vous suivez? Et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. La Bible dit, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Donc après ce discours-là, il y en a une qui a embrassé sa belle-mère et qui est partie. Et il y en a une autre qui s'est attachée à sa belle-mère. Amen. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Ça ne sert à rien de faire tout ça. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Dimanche passé, nous avons parlé de la mission. Et nous avons vu que chacun d'entre nous a une mission. Et que Dieu ne nous a pas créés pour être oisifs sur la terre, mais il nous a assigné à nous tous une mission. Et ta mission est ton premier pas vers ta prospérité. Lorsque tu arrives à identifier ta mission, tu sais dans quel domaine tu vas prospérer. Parce que la mission, comme je l'ai enseigné, que Dieu te donne, il te donne en même temps les capacités de la mener à bien. Amen. Et il s'engage à te soutenir et à t'aider tant que tu es en train d'accomplir la mission. C'est pour ça qu'il a dit, allez faire des nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Et il a dit, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si tu accomplis la mission que Jésus t'a donnée, il sera avec toi. Et ton ministère ne manquera jamais de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es dans le cadre de ta mission. Même dans le monde, les entreprises nous enseignent, nous montrent cela. Lorsqu'une entreprise du monde envoie quelqu'un en mission, l'entreprise prend tous ses frais de mission en charge. S'il a besoin de se déplacer, on lui donne un budget pour se déplacer. S'il doit dormir dans un hôtel, c'est son entreprise qui paye l'hôtel. S'il travaille pour un État, c'est l'État qui va payer. Même s'il travaille pour une association, ou bien pour un club, ou bien pour un gouvernement, quelle que soit l'entité pour laquelle il travaille, lorsqu'il est en mission, ses frais sont pris en charge. My God. My God. My God. Ça veut dire, tu vois, donc ta mission est ton premier pas vers ta prospérité. Parce que dès le moment où tu peux identifier la mission que Dieu a assignée à ta vie, tu sais que tant que tu feras ce qu'il te demande de faire et que tu es en train de marcher vers l'accomplissement du but qu'il a fixé à ta vie, tous tes besoins seront pourvus par lui. Pourquoi? Parce qu'il s'engage à pourvoir à tes besoins, pas à tes désirs. Il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Or, quelque chose devient ton besoin quand c'est dans le cadre de ta mission. Ce qui fait que même pour une personne, un avion privé peut être un luxe ou bien un désir. Mais pour un autre, l'avion privé fait partie de ses besoins. Pour lui, c'est un besoin. Il a besoin d'un avion privé qui puisse faire atterrir au Bouger et décoller de là-bas vers les États-Unis, vers la Martinique, vers la Guadeloupe, alléluia, vers toutes ces nations-là pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, alléluia. Et ça fait partie du cadre de sa mission. C'est un besoin pour lui. Dieu va pourvoir à ce besoin. Mais quand ce n'est pas dans le cadre de ta mission, tu pries. Tu n'as pas prié. Les gens pensent que le secret de la prière, c'est dans les cris. Par la grâce de Dieu, on aura l'école de la prière. Tu vas comprendre que, mon frère, ce n'est pas dans le fait de pleurer, ou bien de crier, ou bien de décider quelque chose, et puis de vouloir obliger Dieu à faire comme toi tu as décidé, que véritablement tu vas avoir le succès dans une vie de prière. Non. Une des premières clés, c'est d'abord d'identifier la volonté de Dieu. Même Christ, qui est Christ, le fils de Dieu, lorsqu'il est rentré dans le jardin de Gethsémané, il a prié, il a voulu prier à l'encontre, donc, de la croix. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite par-dessus tout. Alléluia. Donc, Jésus lui-même reconnaît que c'est la volonté de Dieu. Quand tu pries dans le sens de la volonté de Dieu, rien ne peut s'opposer à toi. Et rien ne peut s'opposer à l'accomplissement de ce pour lequel tu as prié. Mais quand tu commences à prier contre la volonté de Dieu, c'est déjà faussé dès le départ. Tu es en train de nager à contre-courant. Donc, ta mission est ton premier pas vers ta prospérité. Maintenant, ta mission, elle peut être envers un individu comme elle peut être envers une vision. C'est-à-dire que soit tu as une vision, et d'autres personnes ont pour mission de t'aider à accomplir ta vision. Soit tu n'as pas de vision dans ce domaine-là, et donc tu as pour mission d'aider quelqu'un qui a la vision à accomplir sa vision. Est-ce que tu me suis? Nous n'avons pas tous des visions dans le même domaine. Il y a certains moments, tu dois pouvoir identifier quelqu'un qui a une vision qui va dans le même sens que ta vision, alléluia, et donc, dans ce cas, ta mission est d'aider celui-là à atteindre sa vision, sachant que lorsque lui, il atteindra sa vision, toi également, tu atteindras ta vision. Donc, ta mission peut s'exercer parce que tu as une vision que tu dois accomplir, mais elle peut s'exercer dans le sens que tu as identifié une organisation ou un homme qui est en train de faire quelque chose et tu partages sa vision et donc tu l'aides à accomplir sa vision, alléluia. Et en ce moment-là, toi aussi, tu es en train d'accomplir, amen. Et Dieu met sa main sur toi. Pourquoi? Parce que tu fais partie de l'organisation qui amène donc la vision à sa réalisation. Quand tu mènes ta mission à bien, c'est-à-dire quand tu réalises ce pour lequel Dieu t'a appelé, ou bien ce pour lequel Dieu t'a suscité, quand tu as atteint cet objectif-là, quand tu arrives à le réaliser, dans le processus donc d'atteindre ce but-là, tu vas te retrouver au point de ta bénédiction, au point de ton rendez-vous. Parce que lorsque Dieu te fixe un but, il fixe en même temps un temps T. Amen. Une minute M, une seconde S. C'est-à-dire, il fixe un point dans lequel, dans le processus de l'accomplissement, à ce moment-là, il faut que tu sois béni. C'est un rendez-vous. C'est-à-dire, il te donne rendez-vous, mais il te donne rendez-vous dans la... Tu as plusieurs rendez-vous. Tu as un rendez-vous avec Dieu le jour où tu donnes ta vie au Seigneur. Et il te dit, bon, maintenant, voilà, tu vas accomplir ça, 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 ça et ça pour moi. Et après, tu ne le vois plus. Mais il t'attend dans l'accomplissement de ta mission. Lorsque tu es en train d'accomplir ta mission, à un moment, il va se manifester encore pour dire, bon et fidèle serviteur, voilà, tu es en train d'accomplir ce que je t'ai demandé. Ce jour-là est arrivé pour que tu reçoives la bénédiction. Donc, dans le processus de l'accomplissement de ta mission, il y a un point de rendez-vous avec Dieu. Mais malheureusement, certains n'arrivent jamais à leur point de rendez-vous parce qu'ils ont échoué dans leur mission. Certains n'arrivent jamais à leur point de rendez-vous parce qu'ils n'ont jamais marché vers l'accomplissement de leur mission. Certains n'arrivent jamais à leur point de rendez-vous tout simplement parce qu'ils ne savent même pas quelle est leur mission. Un qui se promène sur la terre. Depuis qu'il est converti, il ne fait que tourner en rond. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas un but, un objectif à atteindre, c'est quelqu'un qui tourne en rond. Comme les enfants d'Israël dans le désert. Ça peut durer 40 ans, ça peut durer 50 ans, ça peut durer 60 ans. Mais Israël avait un but, Canaan. Parce que Dieu, quand il t'appelle, il te fixe un objectif, Canaan. Mais ils ont renoncé à Canaan. Au moment où ils pouvaient conquérir Canaan, Dieu leur a dit, allez, ils ont dit non, là-bas il y a des géants. Ils vont nous tuer. Donc Dieu a dit, bon, ok, si vous n'allez pas conquérir Canaan, ben qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Vous n'allez pas retourner en Égypte non plus. Il y a des gens, ta bénédiction est devant toi. Tu dois entrer dans un niveau d'élévation spirituelle, de la connaissance de la parole de Dieu, ou bien dans le domaine dans lequel tu exerces, que tu sois un chanteur, ou bien que tu sois, même si tu présides, et toutes ces choses, tout ce que tu peux faire dans l'église ou dans le royaume de Dieu, alléluia, même monter une association qui va aider les pauvres, qui va aider les démunis. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu refuses de faire ce que Dieu te demande de faire parce que tu trouves que c'est trop grand. Mais tu ne peux pas non plus retourner dans le monde. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Il y a des gens, leur, ils disent, ah, comment? Le monde, là, moi, je connais le monde. Oh, c'était trop dur. Je suis sorti du monde, c'est pas pour retourner dans le monde. Mais il est là aussi dans l'église, mais il ne sait pas ce qu'il va faire. Il n'a pas une mission, il n'a pas un but, il n'a pas. Si tu n'as pas un but, aide quelqu'un qui a un but. À atteindre son but. Là, tu travailles dans la maison de Dieu, tu travailles dans le royaume de Dieu, tu travailles dans l'œuvre de Dieu. Et quand une âme est gagnée, tu sais que ah, on a gagné une âme. Quand 10 âmes sont gagnées, on a gagné 10 âmes. Quand vous construisez une église, on a bâti une église. Alléluia. Quand tout ça, toutes ces choses-là, tu vas recevoir autant de récompenses que celui qui était à la tête de cette mission ou de cette organisation. Parce que tu as participé au travail. Mais tu n'es jamais concerné par quoi que ce soit. Tu as fait cette église, mais dans les 7 églises, tu n'as même pas aidé même à acheter une chaire ou bien un micro. La seule chose, la seule mission que tu avais, c'était de critiquer seulement. Tu es parti de l'église numéro 1 parce que là-bas, il n'y a pas d'amour. Tu es parti de l'église numéro 2 parce que là-bas, les gens, il y avait trop d'amour, mais les gens s'occupaient trop de tes affaires. Tu es parti de l'église numéro 3 parce que le groupe musical, vraiment, il y avait une fille dedans dont tu n'aimais pas la tête. Tu es parti de l'église numéro 4 parce que le pasteur t'a pas salué le jour où il est arrivé alors qu'il était en retard. Donc, finalement, tu ne fais que partir et tout, mais le problème, c'est que tu n'as pas encore identifié véritablement ta mission. Parce qu'en réalité, si tu es là et que certaines choses attirent ton attention, c'est que certainement tu es là pour pouvoir aider l'organisation à régler ce problème-là en particulier. Ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Si dans une assemblée ou bien dans une église, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de vision, la seule vision, c'est envoyer vos dîmes pour que je puisse avoir assez d'argent pour pouvoir payer mon loyer. Mon ami, toi, tu n'es pas là pour aider quelqu'un à payer son loyer à la fin du mois. Tu es là parce que Jésus nous a appelés à accomplir la grande commission. Alléluia. Il nous a appelés à conquérir des royaumes, à gagner des âmes à bénir des gens, amen, à annoncer l'évangile. Et donc, il faut que tu fasses partie d'une organisation qui est en train d'accomplir ces choses. Et c'est dans le processus de l'accomplissement que se trouve le point de rendez-vous. Dis à ton voisin, tu as un rendez-vous avec Dieu. Dis-lui encore, ne laisse pas les gens te distraire. Donc maintenant tu répètes, tu as un rendez-vous avec Dieu, ne laisse pas les gens te distraire. Revenons à notre histoire. Parce qu'elle est, très, très, très importante, elle est remplie d'enseignements. Regarde au verset 8. La Bible dit, Naomi dit à ses belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Donc, elle les a bénies, elle leur a dit, « Allez. » Mais il faut suivre sa mission. Même si cette mission-là te donne des raisons de partir. Est-ce que tu me suis? Si tu as un objectif que tu dois atteindre, tu as un but que Dieu t'a fixé, même si il y a des obstacles, même si la personne, parce que ta mission peut s'exercer envers une personne, comme Élisée. Élisée a identifié en Élie celui qu'il devait servir. Tout le monde connaissait Élisée en tant que l'homme qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Il était le serviteur d'Élie. Quand tu es à côté d'un prophète, je suis désolé. Si le prophète a besoin de boire de l'eau, c'est toi qui vas courir pour aller chercher l'eau pour lui amener. Le prophète veut manger, tu vas aller préparer. Le prophète veut quelque chose, tu vas te déplacer, tu vas aller le chercher. Et c'était ce qu'Élisée faisait. Ne pensez pas que c'était Élie qui servait Élisée. Élisée, lui, il était là, il était au beurre, et puis il était derrière Élie. Et la seule chose qu'il attendait, c'était qu'Élie parte pour qu'il reçoive l'onction. Non, Élisée avait d'abord pour mission de servir Élie. Et tant qu'il était à côté d'Élie, il devait le servir. Et son désir était de le servir. Son désir était de nettoyer l'endroit où Élie allait dormir. Son désir était de verser de l'eau sur les mains d'Élie quand il s'apprêtait à manger. Son désir était d'aller laver les ustensiles dans lesquels Élie mangeait. Et à un moment, Élie lui a dit, « Bon, tu sais que je serai enlevé bientôt. » Il dit, « Oui, mon maître. » Il dit, « Bon, maintenant je te libère, va à la maison. » Il y en a qui seraient trop contents. Ils vont dire, « Mais oh, alléluia, le gars maintenant, c'est bon, je ne vais plus laver ses assiettes, je ne vais plus tout. Moi-même, je vais me proclamer, je vais devenir prophète aussi comme lui. » Voilà, et il va partir. Mais Élisée dit, il n'en est pas question. Je vais te suivre jusqu'au bout. Parce qu'il y a quelque chose que je veux. J'ai vu en marchant à côté de toi, j'ai vu qu'il y avait quelque chose sur ta vie. Et c'est cette chose-là que je veux. Et il était prêt à aller. Élise lui a donné toutes les raisons de partir. Mais il s'est accroché. C'est la même chose pour Naomi. Naomi a dit à Ruth, va chez ta maman. Elle dit, elle ne va pas, elle est là. Elle dit, mais écoute, je suis déjà vieille. J'ai plus de 50 ans. Donc, je n'ai même pas envie de me marier même. Je suis déjà ménopausée. C'est ce que leur a dit. Elle dit, où tu me vois là? J'ai la ménopause. Mais quand bien même, elle dit, quand bien même j'aurai encore de l'espérance et que je me marie, est-ce que vous allez attendre que je fasse un enfant? Et si je fais des enfants pour vous deux? Est-ce que vous allez attendre que ces enfants-là grandissent pour que vous puissiez les épouser? Donc, en fait, elle est en train de dire à Ruth, mais qu'est-ce que tu penses que moi, Naomi, je peux t'apporter? Ruth est restée là quand même. Après, elle leur a dit, mais c'est à cause de vous que j'ai des problèmes. Mais Ruth dit, tu es en train de te fatiguer pour rien. Moi, j'ai identifié que j'ai une mission envers toi. Parce que je ne peux pas te laisser. Tu es d'un certain âge. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu tes enfants. Qui va s'occuper de toi? Elle a eu de la compassion pour elle. Ruth n'était pas intéressée d'abord. Elle n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que cette dame-là peut m'apporter. Ce n'était pas ça son problème. Son problème, c'était qu'est-ce que je peux apporter à cette dame. Alléluia. Donc, elle a identifié sa mission. Sa mission, c'était Naomi. L'aide à Naomi, le soutien à Naomi. Et quel que soit ce que Naomi pouvait dire ou faire, ça n'allait pas changer sa décision parce que sa décision était prise. La Bible dit ensuite au verset 14, après que Naomi ait dit, c'est à cause de vous que je souffre et que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. La Bible dit, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. La Bible dit, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Tu vois, on dit, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Donc il y en a une qui est venue l'embrasser. Un peu comme Judas. Judas, lorsqu'il voulait trahir Jésus, il allait l'embrasser. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensent que le soutien s'exerce dans les manifestations charnelles. Dans les bises, dans les appels téléphoniques, ou bien dans... Non, c'est mon ami, tu vois, vraiment. Homme de Dieu, je suis avec toi. Il y a des gens qui t'appellent une fois dans... une fois l'année. Homme de Dieu, je suis avec toi, je te soutiens, continue, c'est bien, tu fais du bon boulot. Bien, tu reçois des emails. Ah non, c'est bien, vraiment, on est fiers que d'avoir un homme de Dieu comme toi. Vraiment, tu fais des choses intéressantes. Mais ça là, c'est des sentiments, on touche aux sentiments, c'est le charnel, c'est la courtoisie. Mais le véritable attachement se voit dans le sacrifice. La mesure de sacrifice que la personne est prête à faire pour quelqu'un, c'est là qu'on voit véritablement le soutien. La personne veut construire quelque chose, il veut construire une église. Mon frère, on te soutient, sois béni, on te soutient. C'est le soutien là qui va acheter les briques. C'est le soutien là qui va payer l'architecte. Quand, oh, celui, il y a quelqu'un, lui, il n'a même pas besoin de dire on te soutient. Il fait une enveloppe, il met peut-être, je ne sais pas, 500 euros dedans. Quand il t'envoie l'enveloppe de 500 euros là, tu sais que le frère te soutient. Tous ceux qui disent que non, on te soutient là. Le soutien doit se matérialiser. C'est comme ça que tu vois véritablement le soutien. C'est le sacrifice. Le repas que la personne est capable de sauter, l'effort, le transport qu'il paye pour venir, pour pouvoir faire. Que, c'est ça le soutien. C'est pas dans les bisous. Mais c'est ça. Orpa, elle a fait des bisous à sa belle-mère. Alléluia. Mais Ruth s'est attachée à elle. Amen. Voilà, c'est ça. Il y a des gens, tu ne les entends pas, mais tu sais qu'ils te soutiennent. Parce que la nuit, ils se réveillent pour prier pour toi. Ils prennent des jours de jeûne. Ils jeûnent pour toi. Ou bien ils jeûnent pour ton ministère. Ils jeûnent pour le ministère. Ils font des sacrifices. Quand on dit qu'on a besoin de ça, il est le premier à venir donner. C'est ça le soutien. Mais ce n'est pas non. Avec toi. C'est bien. Si tu dis on est avec toi et que tu participes aussi, on est avec toi. Voilà. Sinon, le jour tu as des problèmes, tu vas crier au ciel, Seigneur, Seigneur, ça chauffe. Dieu va dire, je suis avec toi. Continue. tu appelles à l'église, tu dis vraiment, homme de Dieu, ça ne va pas. Il dit, on te soutient en prière. Faut lutter, ça va aller. Amen. Parce que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire aux autres. Alléluia. Et ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire aux autres. Donc quand tu vois ton frère dans le besoin, il faut le soutenir, il faut l'aider réellement. De telle sorte que le jour où toi aussi tu seras dans le besoin, on va te soutenir réellement. Mais sinon on va te dire, non, on te soutient, hein? On est avec toi. faut baisser. Alléluia. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Tu vois? Elle dit, bon, voilà, ta belle-sœur maintenant est partie. Donc, elle voit que ses arguments maintenant commencent à être solides. Elle dit, ta belle-sœur est partie. Il faut faire comme elle. Il faut la suivre. Mais retourne comme ta belle-sœur. Ruth dit, ne me presse pas de te laisser. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et que Dieu, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Donc elle connaissait l'Éternel. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Voilà ce qu'on appelle un engagement. Voilà ce qu'on appelle un engagement. Un engagement qu'un homme prend vis-à-vis d'une mission ou bien vis-à-vis de quelque chose qu'il doit accomplir. Quel que soit ce qui se passe, je suis dedans. Je ne vais pas reculer. Je vais avancer, je vais progresser, je vais me battre jusqu'à l'accomplissement. Ce sont ces gens de personnes-là qui arrivent à obtenir des résultats. Parce que ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Quelle que soit la manière dont tu abandonnes, même si je regardais encore, il n'y a pas longtemps, la Coupe d'Europe d'athlétisme. Tu vois, le gars, il est là, il courait bien au début, mais vers la ligne d'arrivée, voir que ses amis sont en train de le dépasser, il commence à faire des grimaces, et puis boite, il fait comme si, bon, c'est son pied qui est cassé, tout ça. On dit non, il allait gagner, mais il a eu mal au pied, tout ça. Mon frère, quel que soit, même si, je sais pas quoi, mais le fait, même si ton pied est cassé, c'est pas ce que les gens regardent. Les gens, ils cherchent à savoir qui a passé la ligne d'arrivée en premier. C'est tout. L'autre, on l'oublie en même temps. Il n'a pas gagné, donc on l'oublie. Toutes les raisons que tu peux apporter, mon frère, ce ne sont que des raisons. L'essentiel, c'est quoi? Tu n'as pas passé la ligne d'arrivée, c'est tout. Amen. Et c'est ça dans la vie. On ne va pas te demander, mais combien de fois on t'a insulté même? Ah non, moi, on m'a insulté 387 fois. Toi, on t'a insulté 207 fois seulement. C'est à cause de ça que tu as pu arriver là-bas. Moi, mes parents n'avaient pas l'argent. Toi, on t'a donné une maison, c'est à cause de ça que tu es arrivé. Dieu, le problème, ce n'est pas qu'il y a une maison. Quand les gens se mettent sur le point de départ et le point d'arrivée, on cherche à savoir qu'il y a une maison, qui son père a assisté à ses entraînements. Non, lui, son père n'a pas assisté à ses entraînements. Donc, si lui gagne, en fait, normalement, il doit... Non. On ne cherche pas à savoir s'il s'est entraîné je ne sais pas quelle sorte d'entraînement il a eu. Tout ça, ce n'est pas le problème. Le problème, maintenant, vous êtes sur le terrain, qui va arriver en premier? Et Paul l'a dit. Il dit, lorsque vous courez, courez comme des personnes qui veulent remporter la victoire. Alléluia. Tu fixes le point d'arrivée et puis tu cours. Pourquoi? Sachant qu'on est nombreux à courir. Et les gens du monde, ils courent pour des couronnes qui sont corruptibles. Pour des choses que, après qu'ils aient gagné, deux ans plus tard, quelqu'un d'autre va venir gagner, on va oublier leur nom. Mais nous, nous courons pour une récompense qui est éternelle. Amen. La récompense que nous allons avoir parce que nous avons accompli quelque chose sur cette terre, parce que nous avons atteint notre but, parce que nous avons accompli ce pour lequel Dieu nous a créé. Lorsqu'on l'aura au ciel, personne ne pourra nous l'enlever. Alléluia. Ça sera une récompense éternelle qui va briller dans les siècles et qui n'aura pas de fin parce que nous allons entrer dans l'éternité. Donc c'est pas le moment de baisser les bras, de dire je suis fatigué. L'autre là, c'est mieux pour elle. Moi, vraiment, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Non, il faut te battre et ne pas arrêter. Et c'est ça l'engagement du soldat. Et Dieu se suscite des soldats au milieu de nous. Amen. Il y a des personnes à qui il est en train de parler. Aujourd'hui, tu vas embrasser ta mission et tu ne vas pas arrêter. Tu ne vas pas te laisser distraire, tu ne vas pas te laisser décourager. Tu vas marcher jusqu'au bout. Et au moins, voyez, Paul a pu dire, vers l'aube de sa vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai persévéré jusqu'au bout. J'ai eu la victoire. Il dit, maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Il avait la certitude qu'il avait accompli quelque chose sur la terre avant de partir au ciel. Qui a cette même certitude-là? Qu'il a accompli quelque chose sur la terre. Maintenant, qui a la certitude qu'il va accomplir quelque chose sur la terre avant de partir dans le ciel? Parce qu'il faut que tu le fasses. Il faut qu'en partant, on puisse se rappeler de toi pour quelque chose que tu auras accompli. Dieu ne fait rien par hasard. Ruth avait une mission auprès de Naomi. Mais Naomi aussi avait une mission auprès de Ruth. Laisse-moi te dire que toute personne envers qui tu exerces le ministère a un ministère qu'il doit exercer envers toi. C'est un principe que Dieu a établi. Tu aides quelqu'un, la Bible dit que tu ne peux pas moissonner là où tu n'as pas semé. Si tu n'as pas exercé un ministère envers quelqu'un, tu ne dois rien recevoir de cette personne. Parce qu'en le faisant, c'est comme si tu étais en train de voler. Mais si tu as fait des efforts pour cette personne, si tu as prié pour cette personne, si tu t'es investi pour cette personne, si tu as cherché la face de Dieu pour cette personne, si tu as exercé quelque chose dans la vie de cette personne, il est tout à fait normal que cette personne-là puisse aussi exercer un ministère envers toi. Amen. Et c'est ce qui doit se faire. Ruth avait une mission envers Naomi, mais Naomi aussi avait une mission envers Ruth. Le seul problème, c'est que Ruth, en accomplissant son rôle auprès de Naomi, ne savait pas quelle mission Naomi avait auprès d'elle. Et Naomi non plus ne savait pas. Mais Dieu lui savait. Dieu, lui, il le savait. La mission de Ruth, c'était d'aider Naomi. Et la mission de Naomi, vous savez, c'était laquelle? C'était celle d'emmener Ruth vers son point de rendez-vous. Alléluia. Sans Naomi, Ruth n'allait jamais arriver là où Dieu l'attendait pour pouvoir la bénir. Amen. Il y a un endroit, un moment où tu dois recevoir quelque chose. Mais des fois, il faut que tu marches avec quelqu'un pour que cette personne-là puisse t'emmener à l'endroit où tu vas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pour ça que ne pense jamais que tu es en train de perdre ton temps lorsque tu es en train d'aider quelqu'un. Oh my God, my God. Vous savez, il y a des gens, tout simplement parce qu'ils ont marché avec certains serviteurs de Dieu, ils sont devenus aussi des grands serviteurs de Dieu. Il y a plus trop de témoignages que je peux vous donner. Parce que, et d'autres personnes, parce qu'ils ont marché avec des chefs d'État, ils ont eu des opportunités. Parce qu'il y a des hommes qui vont à certains endroits, mais dans son processus, ne dit jamais, parce qu'il y a des gens qui sont trop orgueilleux pour être bénis. Si Jésus était comme ça lui-même, il n'allait pas pouvoir accomplir sa mission. Vous savez pourquoi? Il allait dire, mais Jean le Baptiste lui-même a dit, vous l'avez entendu, non? Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. Donc comment un gars lui-même, il reconnaît qu'il n'est pas digne de délier les lacets de mes souliers? Et puis moi, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, je vais aller me mettre sous lui pour que lui, il me baptise. Lui, il est qui pour me baptiser? Amen. Il aurait pu dire ça. Ce n'est pas lui qui a dit que Jean le Baptiste que vous voyez là, il n'est pas digne de délier. C'est Jean le Baptiste lui-même qui a dit. Donc il aurait pu dire non, lui, il est trop petit. Il faut que je me fasse baptiser par le souverain sacrificateur. Sa mission était finie. Le souverain sacrificateur, elle est remplie de toutes sortes d'esprits bizarres. Mais, mon frère, parce qu'en ce temps-là, quand vous faites l'étude, vraiment, en ce temps-là, normalement, le souverain sacrificateur, ça devait être Jean le Baptiste. Mais il y avait tellement de corruption que, pour devenir souverain sacrificateur, c'était en fait un titre que les gens achetaient. C'était devenu maintenant monnayable. Donc, le souverain sacrificateur, il a acheté cette position-là. Et donc, quand quelqu'un achète quelque chose, il va se faire rembourser. Ah! Mais c'est ça le problème de la corruption dans certains pays. Je vous parle en connaissance de cause. On dit non, la corruption. Même en Afrique. Moi, je connais quelqu'un, lui, il a payé pour devenir gendarme. On dit le concours, là, c'est 500 000 francs. Donc, il allait voir sa tante, il allait voir son oncle, il allait voir ses amis, ils ont cotisé, ils lui ont donné 500 000, il a payé, il est devenu gendarme. Maintenant qu'il est devenu gendarme, il doit rembourser tout ce à qui il a emprunté l'argent là. Maintenant vous lui dites, non, il ne faut pas, il va faire la corruption. Mais vous pensez que quoi? Toute sa carrière de gendarme là, tous ceux qui vont arrêter vont lui donner 1000 francs, 1500 francs avant de partir. Parce qu'il faut qu'il rembourse l'argent qu'il a pris pour devenir gendarme. C'est comme ça. Donc, le souverain sacrificateur, tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Tout ce qui l'intéressait, c'était... C'est pour ça que Jean le Baptiste est venu avec une autre nature, une autre vision. Il était même prêt, il était trop simple. Mais c'est vers Jean le Baptiste que Jésus s'est tourné. Et lorsque Jean le Baptiste l'a plongé dans les eaux du baptême et qu'il est ressorti, il a dit, on doit obéir à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et une voix s'est écriée dans le ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. S'il n'avait pas fait ça, vous pensez que Dieu allait dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance? Donc, il ne faut pas être trop orgueilleux pour être béni. Naomi, qu'est-ce qu'elle avait? C'était une femme qui avait tout perdu. Elle avait d'abord quitté sa première maison parce qu'il y avait la famine là-bas. Donc, ce n'est pas comme si elle était venue avec des richesses. Et elle avait perdu son mari. Et ensuite, elle a perdu ses deux fils. Donc, les organisations de funérailles, tout ça, ça l'a complètement asséché. Elle-même, elle regarde Ruth. Elle dit, mais Ruth, qu'est-ce que moi, je peux t'offrir? Ruth lui dit, allons seulement. Parce que je ne peux pas te laisser partir comme ça. J'ai une mission envers toi. Ma mission, c'est de faire que tu ne regrettes pas ton mari et tes deux fils. Je serai pour toi comme tes fils. Amen. je vais t'aider, je vais te soutenir. Et elle a fait jusqu'au bout. La Bible dit au chapitre 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec. Il se nommait Boaz. Naomi avait un parent de son mari. Ce n'était même pas son parent à elle-même, mais c'était le parent de son mari. Et cet homme-là, il était puissant et il était riche. C'est la Bible qui dit. Il y a des gens qui ne sont pas puissants et qui sont pauvres. Il y a des gens qui ne sont pas puissants et qui sont riches. Mais celui-là, il était puissant et il était riche. Il était de la famille d'Élimélec et il se nommait Boaz. Maintenant, dites-moi, si ce n'est pas à travers Naomi, comment Ruth allait faire pour rencontrer Boaz un jour? Amen. La seule manière pour que Ruth puisse être mise en contact avec Boaz, il fallait pour cela qu'elle connusse Naomi. Donc elle ne savait pas. Naomi ne lui a pas dit, écoute, il y a le frère de mon mari. C'est un homme puissant et riche. Si tu me sers, tu vas voir, je vais te le présenter. Non. Ruth a exercé son ministère. Mais il se trouve que la bénédiction était entre les mains de Naomi. My God. Tu sais, si tu n'es pas au bon endroit quand la bénédiction descend, tu vas la rater. Pour qu'il y ait un miracle, et pour qu'il y ait une grande bénédiction qui descende dans ta vie, tu dois être au bon endroit, au bon moment. Dis à ton voisin, sois au bon endroit. Au bon moment. Amen. Même si ta mission n'est pas glorieuse, mais accroche-toi, parce que peut-être que cette mission peu glorieuse là, va faire que tu seras au bon endroit, au bon moment. Combien de personnes n'ont pas vu leur vie être transformée parce qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment. Il était là le jour où le chef de l'État est venu rendre visite. Même si tous les jours avant, il n'était pas là, mais ce jour-là, il était là. C'est lui qui a fait le discours. Or, il se trouve que le chef de l'État avait besoin de quelqu'un pour pouvoir écrire ses discours. Il était là, au bon endroit, au bon moment. Même, tu sais, Dieu visite les assemblées. Dieu visite son église. Lorsque l'église est en mouvement et que l'église veut atteindre un objectif, il y a des moments où la présence de Dieu est plus forte dans la vie d'une église qu'à d'autres moments, ou bien d'un ministère. Mais si tu es là au moment où l'onction descend, là, ça va te toucher, que tu le veuilles ou non. Même si tu es un païen, l'onction va te toucher. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Judas, quand Judas était avec les disciples, Judas a chassé les démons. Judas a prié pour des malades, ils étaient guéris. Pourquoi? Parce qu'il était dans le mouvement. Alléluia. C'est la vérité, mon frère. Je dis, quand Dieu visite un endroit, quand l'onction descend là, tout le monde est visité. C'est le mouvement en même temps. L'onction est là. Tout le monde reçoit sa part d'onction. Amen. Quel que soit bon, je ne vais pas vous encourager à vivre mal, mais quel que soit le genre de vie que tu as, regardez, la Bible dit un moment, en parlant de Saül, que tu verras des prophètes et tu iras vers eux et tu prophétiseras comme eux. Quand il y a un groupe de prophètes qui se déplace, que tu vas te mettre au milieu de l'onction prophétique, en même temps, va te toucher. Alléluia. Mais c'est pas parce que tu es dans un groupe forcément, où il y a une certaine onction que toi-même tu as l'onction aussi. Donc il y a l'onction, c'est vrai, que tu reçois individuellement, mais il y a l'onction également de groupe. Et donc si tu es au bon endroit, au bon moment, le jour où le Seigneur visite de manière particulière, le jour où Dieu décide de bénir ses enfants financièrement, ce jour-là, tu reçois aussi ta bénédiction. Alléluia. Donc, quand tu es en mission, ne laisse personne te distraire. Parce que tu sais quoi? Ta mission possède ton futur. Dis à ton voisin, ta mission possède ton futur. Naomi possédait le futur de Ruth, comme Élie possédait le futur d'Élisée. Quand tu as pu identifier ta mission, sache que c'est dans ses mains que Dieu a mis ce qui va faire ton succès et faire ta bénédiction. My God. Est-ce que tu peux commencer à à penser un peu, à réfléchir un peu. Pour voir dans ta vie, qu'est-ce que tu dois accomplir. Quelle mission tu dois accomplir. Sache que peut-être que tu ne sauras pas d'avance ce que cette personne peut t'apporter. Mais quand tu vas t'accrocher à cette mission va t'amener à l'endroit où Dieu a décidé de te bénir. Amen. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle lui a dit, « Laisse-moi aller ramasser. » Glaner, en fait, c'est lorsqu'il y a des champs de maïs, ceux qui cultivent le champ entrent dans le champ et commencent à couper les épis. Et lorsqu'ils sortent du champ, ceux qui glanent, en fait, sont des personnes qui viennent pour pouvoir ramasser les grains qui sont tombés par terre ou bien les épis que les gens ont oubliés, ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle glaner. C'est ramasser les restes. Donc, Ruth dit, laisse-moi, je vais aller ramasser les restes dans le champ de ton beau. Et Naomi lui dit, vas-y. Donc, elle est partie pour pouvoir ramasser les restes. Mais Dieu avait un autre plan. C'était de faire d'elle la patronne de l'endroit. Alléluia. Donc quand tu dois rentrer quelque part, il ne faut pas forcément chercher à rentrer par la grande porte. Il y a des gens qui veulent entrer, mais ils veulent qu'on sonne la trompette. Voilà. C'est comme ça que je dois être reçu. Non. Rentre seulement. Alléluia. La manière dont tu dois être reçu là, c'est Dieu qui va établir ça. Alléluia. Toi, ton problème, c'est pas la manière dont tu seras reçu. Ton problème, c'est d'être à l'endroit où Dieu veut que tu sois au moment où la bénédiction doit descendre. Alléluia. Donc, même si tu es à l'endroit, mais que tu as été bien reçu, gloire à Dieu. Si tu es à l'endroit, que tu as été mal reçu, gloire à Dieu. Mais l'essentiel, c'est d'être à l'endroit au bon moment. Amen. My God. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par bonheur. Dieu ne fait rien par hasard. Le jour où elle allait ramasser les restes, là, la Bible dit il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici Boaz vint de Bethléem. Bizarrement, c'est ce jour-là, Boaz maintenant vient, il rentre à Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de suivre les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de suivre les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite. Elle est quittée à Moab là-bas quelque part, qui est venue avec Naomi du pays de Moab. Donc lui, tout de suite, là, il fait les rapports. Mais elle cherche quoi avec Naomi? Naomi n'a rien à lui donner. Elle est venue chercher quoi? C'est pour venir ramasser les restes ici. Elle n'a pas de parents à Moab là-bas. Elle commence à savoir un peu, mais qui est cette femme? Amen. Elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Amen. Donc depuis le matin, elle est là. Lui, il est arrivé dans la soirée. Il dit, ah bon, elle est là depuis le matin. Il dit, oui. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. My God. Quand Dieu veut te bénir, c'est comme ça. Est-ce qu'elle savait ce qui allait lui arriver? Certainement, elle se disait, j'ai mal au dos, je suis en train de ramasser les restes. Là. On va faire quoi avec? Mais il y a quelque chose qui lui disait de rester quand même. Alléluia. Elle dit, mais vraiment, moi, avant, je mangeais des bons trucs, mais je suis en train de ramasser des restes. J'ai fait quoi avec ces restes-là? Mais quelque chose lui disait, non, continue. Et elle est restée là. Bizarrement, c'est à ce moment Boaz a dit, non, je vais aller visiter mon champ. C'est à ce moment que Boaz arrive et il regarde et qu'il prend le temps de scruter l'horizon et de regarder et de voir qu'il y a une fille qui est en train de ramasser les restes dans son champ. Et il dit au serviteur, mais c'est qui celle-là? Il dit, mais celle-là, elle est là depuis le matin. Depuis le matin, elle est là en train de glaner. Il dit, quoi? C'est qui cette fille? Il dit, viens ma fille, viens. Il ne faut plus aller dans un autre champ. C'est ici qu'il faut venir ramasser. Alléluia. Amen. Il dit, hein, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Il dit, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. Il dit, regarde bien, c'est où on moissonne là, il faut aller là-bas. Il dit, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Si quelqu'un parmi mes serviteurs te touche, il va avoir affaire à moi. Amen. Et quand tu auras soif, tu iras au vase. Donc, ce n'est pas la peine d'aller boire les eaux bizarres. Il y a des vases, les gens ont déjà puisé de l'eau. Amen. Et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Lui-même, il dit au verset 12, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. » Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Mon frère, lui-même, il reconnaît que, vous savez, il y a certaines choses que vous faites. Aucun homme ne peut vous récompenser. Ce n'est pas la peine de vous attendre à la récompense d'un homme. Boaz ne pouvait faire que ce qu'il pouvait faire, mais l'Éternel, il savait que la récompense de l'Éternel était supérieure à la récompense qu'un homme pouvait apporter. Il dit que l'Éternel te récompense. Il y a des gens, lorsqu'ils font quelque chose, ils s'attendent tout de suite que l'homme de Dieu vienne leur dire « Ah, merci, merci beaucoup, en tout cas, merci que Dieu te... » Non, ce que tu as fait là, ce n'est pas pour que l'homme de Dieu le voie. Mais Dieu, l'Éternel des armées, lui, il l'a vu. Même si l'homme de Dieu n'est pas dans ta chambre quand tu fais l'intercession, mais Dieu, lui, voit que tu es en train d'intercéder pour l'homme de Dieu. Et c'est l'Éternel qui va te récompenser. Donc, l'Éternel, il dit que l'Éternel te récompense. Ensuite, elle dit « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. » Car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Elle dit, je suis même moins bien qu'une de tes servantes. Mais ce n'est pas son problème. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Pour qui? Pour Naomi. Oh my God. Cette femme-là, elle mérite d'être dans la Bible. Amen. Comme Rebecca. Comme Déborah. Toutes ces femmes-là, elles avaient quelque chose. C'est-à-dire constamment, elles ne pensaient pas à elle, mais elles pensaient à sa belle-mère. Elle avait de la compassion pour elle. Mon frère, quand tu as de la compassion pour les hommes, Dieu a compassion pour toi. Quand tu as compassion pour quelqu'un qui en a le besoin, Dieu a compassion pour toi. Mais si tu n'as pas compassion pour celui qui est dans le besoin, quand tu cries même, « Oh, secours !» On dit, « Fermez les fenêtres, lui, là. » Il dérange. Il n'aime pas aider les autres. Il est le premier à chasser les gens. Maintenant, on veut le chasser de sa maison. Il est en train de crier au secours. Attends, on va le chasser un peu, on va savoir c'est quoi. C'est ça. Il faut, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux autres. C'est la règle. On continue. Au verset 16, il dit, au verset 15 plutôt, il dit, « Puis elle se leva pour glaner. » Quand elle a fini de manger, elle a gardé un peu de côté pour Naomi. Elle se lève pour glaner. Boaz donne cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi entre les gerbes. Ça veut dire qu'elle, elle a le droit maintenant de rentrer même dans le champ. Qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. My God. Ça ressemble à Dieu maintenant, tu vois, qui donne des ordres à ses anges. Maintenant, là, vous-même, vous allez aller arracher des épis, tout frais, que vous allez déposer là, spécialement pour qu'elle, elle vienne chercher. Vous avez compris? Donc, ce qui devait être d'abord du glanage, c'est devenu maintenant une récolte. Elle qui est rentrée dans le champ pour aller ramasser les restes, elle se retrouvait maintenant en train de faire sa récolte. Elle qui n'avait pas de champ, elle qui n'avait pas de terre dans cette nation, mais à cause de la mission à laquelle elle s'est attachée jusqu'au bout, Dieu a permis qu'elle rentre en contact avec celui qui allait faire changer sa vie à tout jamais. My God, my God. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu donne des ordres à ses anges pour qu'ils mettent des bénédictions sur ton chemin. Dieu donne des ordres à ses anges pour qu'on t'appelle et qu'on t'écrive et qu'on te dise qu'on s'est trompé quelque part, vous avez payé pendant 5 ans des factures que vous ne deviez pas payer, on vous rembourse tout ça. Alléluia. Ça t'est jamais arrivé? Ça t'est déjà arrivé? Alléluia. C'est Dieu qui fait ce genre de choses-là. Il y a des gens qui pensent que, ils disent, mais moi je vais faire ça, et puis on va me donner quoi? Toi tu sais pas ce que Dieu est capable de te donner. Il y a des choses qui sont en train de tourner au-dessus de ta tête. Toi-même tu ne sais pas. Il y a des endroits où tu peux travailler, tu ne sais pas. Il y a des gens que tu peux rencontrer, tu peux même entrer dans le gouvernement, tu sais pas. Il y a un jeune homme là, qui aujourd'hui est conseiller de je sais pas quel homme politique. On dit, il était, l'homme politique allait dans les banlieues, et le gars il est venu faire son discours. Tout de suite il a pris comme conseiller de, comme conseiller. Non, faut pas dire, mais je fais les discours des banlieues là, je fais les discours des banlieues. Les gens là, ils comprennent même pas ce que je dis. Ça sert à quoi que je vais faire les discours? Mais mon frère, faut continuer de faire les discours, mon frère. Alléluia. Parce qu'un jour, Dieu va permettre que ce discours que tu vas faire là va te permettre de sortir à tout jamais de la banlieue. Et ce gars, il est devenu conseiller de ce ministre. Et jusqu'à aujourd'hui, il est béni, il est prospère. Il n'a aucun diplôme, mais il est béni. Amen. Ta vie peut changer si tu restes fidèle à ta mission. C'est pas la peine de regarder les circonstances. Faut regarder ta mission, le but fixé. Travaille seulement. Même dans le cas, si Dieu t'a mis à cœur de monter une entreprise, travaille. Peut-être un jour, tu vas tomber sur un client qui va dire, bon, écoute, vraiment, la manière dont tu m'as rendu ce service-là, c'est parfait. C'est ça même que je cherchais pour mon entreprise. À partir d'aujourd'hui, je vais te nommer responsable de tel département. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ça ne va pas arriver parce qu'il serait en train de rouler et puis tu as vu, je ne sais pas, au bord d'une route en train de jouer le faroteur. Là, c'est certaines personnes qui comprennent aussi ce que je dis. Ou bien tu es là, tu te promènes, tu dis un jour ça va venir. Un jour ça va venir. Tu sais le jour ça va venir? Tu as fait un jour ça va venir jusqu'à tu auras 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Après, Dieu va te dire, bon, maintenant le jour est venu pour que toi-même tu viennes. Et tu n'auras rien fait. Parce que on n'attend pas que les choses viennent. On provoque les choses. Alléluia. On se bat pour que les choses viennent. On fait de telle sorte que les choses viennent. Alléluia. On n'attend pas. Si Ruth était restée avec Naomi, on est arrivé ici, comment on va faire? On va rester là, on va attendre un jour. Les gens vont nous envoyer à manger. Elle n'allait rien avoir. Elle s'est dit, mais il n'y a rien, je n'ai pas de champ. Bon, au moins, je vais aller, j'ai vu un champ quelque part là-bas. Est-ce que je peux aller ramasser les restes là-bas? Voilà des gens, le genre de personnes que Dieu bénit. Des gens qui ne s'asseyent jamais, mais qui sont toujours en train de se battre. Ils ouvrent la porte pour que le miracle entre. Mais toi, le miracle arrive, ils t'ouvrent la porte fermée. Il tape même à la porte. Tu dis, c'est qui même? Oh, laissez-moi, j'attends mon miracle. Mais ton miracle est là. Alléluia. Ton miracle est là. Faut faire quelque chose pour le déclencher. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et entra dans la ville. C'est verset 17, verset 18 maintenant. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Amen. Parce qu'elle-même se rend compte que ce qu'elle est partie glaner, ce qu'elle a emmené là, c'est trop par rapport à un simple glanage. Et elle dit, béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Parce qu'elle a reconnu que si quelqu'un ne lui avait pas donné ça, elle ne pouvait pas venir avec autant de choses. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit quoi? Naomi dit à sa belle-fille, hey, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Tu ne fais rien par hasard. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont su nous droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Verset 1 du chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Il faut souligner ça. Tu vois? La Naomi qui lui a dit, ça ne sert à rien de me suivre. Ça ne sert à rien de temps. Je n'ai rien pour toi. Je ne peux rien te donner. Naomi lui dit, viens ma fille, viens t'asseoir. Elle dit, il est temps que pour moi d'assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Je vais t'aider je vais faire quelque chose pour toi de telle sorte que ton avenir soit assuré, soit garanti. Pourquoi? Parce que Naomi s'est mise en tête de faire Boaz épouser Ruth. Alléluia. Donc la personne même que tu penses qu'il ne peut rien t'apporter à un moment, cette personne-là peut être la source de ta bénédiction à un moment où tu t'attends le moins. Alléluia. My God. Et donc à ce moment-là, Naomi lui dit ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire, à quel moment est-ce qu'elle doit faire certaines choses. On aura l'occasion j'aurai l'occasion de vous enseigner dessus, ce que j'appelle la conquête de l'époux. Amen. Parce que chaque acte qu'elle a posé a une portée dans le spirituel. Que tu comprennes comment est-ce qu'on attire sa bénédiction. My God. Rien n'arrive par hasard. Dis à ton voisin, rien n'arrive par hasard. La bénédiction ne vient pas par accident. Rien n'arrive par hasard. Et donc, Naomi lui dit, écoute, je vais t'assurer ton avenir afin que tu sois heureuse. La Bible dit au verset 17, donc du chapitre 4. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe. Donc, en parlant du fils donc de Ruth, on dit, un fils est né à Naomi. Au verset 13 du chapitre 4, la Bible dit, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Cette femme-là, Dieu a permis qu'elle épouse un homme puissant et riche, et qu'elle donne à cet homme puissant et riche un fils. Les femmes disent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célèbre en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée et qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Oh my God. My God. Les femmes, les pauvres, les femmes ont dit que cette femme Ruth là, elle vaut mieux pour toi que sept fils. Et même si tu avais eu sept garçons, il n'allait pas pouvoir te donner autant de bénédictions et autant de richesses et autant de joie que cette fille là. Alléluia. Alléluia. Voilà une femme dont on dit qu'elle vaut sept hommes. Et Dieu a dit non, cette femme-là, elle est digne d'être la mère d'Obed, qui lui sera le père d'Isaïe, qui lui sera le père de David, qui lui sera le père de Jésus. Alléluia. Pas le père direct, bien entendu, mais il y a eu des générations entre David et Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour prier le Seigneur? Comment pouvait-elle savoir qu'en allant soutenir une veuve, elle allait s'inscrire dans l'éternité? Comment pouvait-elle savoir qu'en allant dans un champ pour ramasser des restes, elle allait rencontrer l'homme qui allait la consoler? Certainement, tu attends quelque chose de Dieu. Tu veux que Dieu ouvre une porte pour toi, qu'il te fasse une connexion. Tu attends un miracle, tu attends que Dieu véritablement accomplisse quelque chose d'extraordinaire pour toi. Mais il y a des choses. Je ne dis pas d'aller commettre le péché. Je dis, il y a des choses que tu refuses de faire. Tu dis, non, moi je suis trop propre pour faire ce genre de choses-là. Ça c'est pour les autres. Moi je suis trop ceci pour faire ce genre de choses. Moi je suis trop cela pour faire ce genre de choses. Mais Ruth, elle n'a pas regardé tout ça. Elle s'est dit, je vais me battre. Je vais insister, je vais continuer, je vais le faire. Et c'est dans le processus de l'accomplissement de sa mission auprès de Ruth, sa belle-mère, que Dieu l'a rencontrée et que Dieu l'a bénie. Alléluia. Alléluia. écoute-moi ce soir. Dieu, même si tu es déjà béni, moi je sais que tu n'es pas encore arrivé au point de rendez-vous. Parce que entre le moment de l'appel et le moment du rendez-vous, il y a des moments où Dieu te bénit. Il y a des moments où tu reçois des bénédictions. Ce sont des... Pour Dieu, c'est comme des bonbons. Il t'encourage. Tu as une petite bénédiction, une augmentation. Il t'encourage. Tu as une petite situation qui se décante. Il t'encourage. Tu as quelqu'un qui vient te rembourser tes crédits. Il t'encourage. Il y a une délivrance qui se produit. Il t'encourage. Tu guéris d'un mal de tête, d'un mal de dos. Il t'encourage. Alléluia. Tu sais que Dieu est vivant. Mais il y a quelque chose de plus grand que tu sais. Dans ton âme intérieure, que tu dois toucher, que tu dois avoir. Pour certains, c'est le pouvoir. D'autres, c'est l'aisance financière. Pour d'autres, c'est tout simplement la satisfaction de servir Dieu. Pour d'autres, c'est la satisfaction de voir ses enfants réussir. Pour d'autres, c'est la satisfaction de pouvoir aider les gens. Mais quel que soit ce auquel tu aspires, laisse-moi te dire quelque chose, que ce Dieu-là que je sers a la même volonté que toi, c'est de te permettre d'atteindre ce niveau. Alléluia. Ne rabaisse pas ta vision. Ne ramène pas ta vision à ta capacité, à tes forces, non. Mais continue de courir et ton Dieu te soutiendra. Pas du soutien verbal, mais d'un soutien effectif. Élève la voix et prie ton Dieu ce soir. Parle-lui. Prends un engagement comme Ruth. Car la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ruth était décidée à aller jusqu'au bout. Et elle est allée jusqu'au bout.